Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur sous dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remoueront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous, comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.
Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. La poésie, elle est ce qui est toujours là, dans nos jours et nos nuits difficiles. Et pourquoi rêvons-nous la nuit, sinon parce qu'elle ne nous lâche pas, s'interrogeait Georges Perros. Et il disait, la poésie dit tout ou rien, elle ne diffère pas de la prose. Elle en est le prolongement dans le noir, un état d'alerte. Chaque mot, très compréhensible en soi, se laissant travailler, influencer, métamorphoser, traverser par son voisin, et vice-versa. La relation son et sens étant absolue et s'annulant d'elle-même. Les mots sont des corps qui voyagent, qui se passent de sésame, qui n'ont ni fin ni commencement, le secret s'ouvrant les veines que le poète n'a que le temps d'un peu stranguler, juste assez pour régler à sa guise éphémère la circulation. Poète, c'est celui qui habite totalement son être, disait Georges Perros. Alors, les poètes, ils étaient à Toulouse, jeudi 18 novembre, dans cette belle salle de l'hôtel d'Assesa, la salle Clémence Isaure, sous la statue de Clémence Isaure, où a eu lieu, de 9h du matin à 17h30, un colloque sur la poésie. Et nous avons vu que la poésie avait rassemblé là ses forces vivaces. Et puis, à 17h30, après que toutes ces séquences sur la poésie aient réveillé l'ensemble donc des consciences, eh bien, Adonis, poète syrien, qui vit maintenant à Paris, après avoir été longtemps à Beyrouth, Adonis a été introduit maître aide-jeu de l'Académie des Jeux Floraux par le poète toulousain Serge Peille. Et puis j'ai eu le plaisir, à mon tour, de remettre ces lettres de maîtrise à un poète pour lequel nous avons beaucoup parlé, en tout cas ces dernières semaines. Il s'agit du poète James Sacré. James Sacré, donc, qui a eu cette longue carrière aux États-Unis et puis qui, à la fin de cette carrière d'enseignant à Smith College à Boston, est venu à résider à Montpellier. Donc c'est notre voisin. Il a une œuvre considérable sur le plan de la poésie contemporaine. Il incarne vraiment la poésie du XXe et du XXIe siècle. Je vous invite à réécouter les émissions de James Sacré et les discours qui ont été prononcés ce jour-là, eh bien, vous seront accessibles sur le site lespoètes.site. J'engage donc à aller sur ce site, lespoètes.site, pour retrouver l'ensemble de nos émissions. Et vous allez retrouver les émissions consacrées à James Sacré ces dernières semaines, et également l'ensemble des émissions que nous réalisons ici à Radio Occitanie toutes les semaines. Et en particulier, je vous invite à écouter une émission qui s'appelle « Confinement numéro 60 ». Parce que dans cette émission, elle était essentiellement consacrée à Elisabeth Aragon, puisque j'avais lu in extenso un recueil d'Elisabeth Aragon qui s'appelait Lieu dit du grand silence, aux éditions Encre Vive. Car c'est encore d'Elisabeth Aragon. Il va être question cette semaine. Pourquoi ? Parce que d'abord, Elisabeth Aragon, qui était présente à ce colloque, puisqu'elle incarne la poésie à Toulouse, elle vit à Toulouse, et c'est curieux d'ailleurs que de voir que les Toulousains ne connaissent pas, en définitive, les véritables artistes de leur ville. Ils ne connaissent pas Elisabeth Aragon. Bon. Et c'est un grand malheur, parce qu'ils passent à côté de beaucoup de choses. Ils passent à côté d'un grand plaisir, ils passent à côté d'une grande et de grand éveil de conscience. Donc on va parler d'Elisabeth Aragon, et je vous invite à vous rendre à l'Oustal, la maison de l'Occitanie, jeudi 25 novembre à 18h, jeudi 25 novembre à 18h, car dans la salle, Antonin Perbosque, excusez-lui mon petit trou de mémoire, dans la salle Antonin Perbosque se produira donc Elisabeth Aragon dans un récital avec une comédienne et également notre ami poète-chanteur Éric Frage. Donc ça commence à 18h à la Maison de l'Occitanie à Toulouse, 11 rue Malcousinat, près du métro Esquirol, près de la place Esquirol. Et ce sera une très belle soirée. L'entrée est entièrement gratuite. Elisabeth Aragon, donc, vous disais-je, elle vit à Toulouse. Ce n'est pas une apparatchik de la poésie toulousaine, il y en a, mais elle n'en est pas. Et peut-être pour cela est-elle beaucoup plus dans un esprit de liberté, hors de toute emprise, qui fait que c'est une poésie véritablement libre et qui n'a d'objet que d'elle-même, même si elle est tournée, bien entendu, vers le monde et qu'elle tient compte des tourments du monde. Elisabeth Aragon, qui est assistante sociale spécialisée de son état, est connue dans le milieu, dans le microcosme poétique depuis longtemps. Elle a publié dans les revues, en particulier la grande revue des charges, dans laquelle tous les noms de la poésie française se retrouvent un jour ou l'autre. Elle a publié, bien entendu, et vous l'avez entendu les semaines dernières, par Encre Vive. Elle a été publiée par Michel Cosem en Encre Vive, en particulier dans la collection Lieux. Et c'est justement, comme nous ne pouvons pas tout choisir, mais je vous invite à vous rendre ce jeudi à la Maison de l'Occitanie pour avoir une idée plus ample de ce qu'est cette poésie, ce sont les poèmes d'Elisabeth Aragon. Donc il y a le lieu chez Elisabeth Aragon, il y a l'amour, l'amour qui prend une place importante. Hein. Et puis on peut dire d'elle aussi, l'amour avorte tant qu'on ignore qu'il faut passer par l'irréparable pour accéder à l'inaltérable. Tout se reconstruit en haut quand tout s'écroule en bas. Enfin, c'est Gustave Thibon qui dit ça, et j'ai retrouvé cette pensée de Gustave Thibon, hein, qui est un mystique, hein, j'ai retrouvé dans les poèmes d'amour d'Elisabeth Aragon. Mais j'ai choisi cette semaine de vous faire entendre, car vous le savez, je suis très attaché à la poésie des lieux. Je pense que reconnaître un lieu et reconnaître tout ce que ce lieu s'imprègne de soi-même, d'histoire des autres, et comment il peut influer sur toute la pensée de soi, de ceux qui sont là, de ceux qui passent par là. Donc le poète doit être un témoin de ces lieux, et c'est sa parole qui doit vivifier ces lieux, puisque, en définitive, ce ne sont pas les faits qui comptent, mais c'est ce qu'on en dit, c'est la parole qui fait la vie. Alors j'ai choisi de vous faire entendre « Horizon andalou » d'Elisabeth Aragon. Il s'agit d'un très beau livre, très très beau livre, alors qu'en plus, il y a une petite pochette avec des cartes, oui, une espèce de cartes postales qui sont des photos des lieux dont elle parle, hein, sur l'Andalousie. Et ce livre est publié aux éditions Hasard Atelier, AZ apostrophe, puis Art, ART, Atelier, Édition. Ce sont des éditions toulousaines, hein, on avait fait ici une émission sur Philippe Besse, qui avait également publié ces mêmes éditions, et qui sont même rue du Paradou, à quelques encablures donc de la Maison de l'Occitanie à Toulouse. Alors il s'agit là d'un long chant, vraiment, sur cette Andalousie. Alors c'est la région de Guadix, cette région qui est aussi, j'ai beaucoup aimé aussi personnellement, hein, je suis très attaché à l'Andalousie, j'ai écrit un recueil qui s'appelle Indalo, c'était sur la région d'Almeria, et elle est très attachée à un petit village qui s'appelle Gorafé donc, qui est près de Guadix, dans ce côté de l'Andalousie, donc, qui est le côté où il y a des maisons troglodytes, hein, j'en ai visité pas mal dans ce coin, des maisons troglodytes qui sont dans ces montagnes sèches-là, de cette partie de l'Andalousie. Horizon andalou d'Elisabeth Aragon. C'est un livre, un très beau livre, qui est dédié à son père. Fontaine. Le pas emporte l'autre. Cadence régulière de deux foulées de chair, de cuir. Les semelles crissent sur l'asphalte. La route est bordée d'oliviers, de figuiers. Le soleil accroche tout juste le plateau. Les canyons, étagés de cuevas, frissonnent encore dans la noirceur. La nuit, pourtant éloignée à l'arrière des heures, laisse planer son ombre. Il y a ce contraste saisissant entre la déchirure du ciel, tout en haut de regard, d'un bleu si intense, si émaillé, et cette gravité des parois, cette route saisie par la fraîcheur pour peu de temps encore. Tout juste le léger murmure de l'eau derrière quelques canisses. Elle est domptée au cannelet de ciment ou enfouie dans un trou, recouverte d'herbes hautes, de joncs, parfois de quelques maïs. Le chant des oiseaux s'éteint peu à peu. Ils en ont fini avec l'appel de la clarté. L'avancée du soleil gagne le bord des falaises, le jour va entrer dans la vallée. C'est comme un surlignement d'argent, auréolé d'une lumière orange, brumeuse, le faisceau d'une lampe, dardé par une main très lointaine, très haute. Juste pour quelques secondes, le saisissement du jour suspendu, une entaille du temps, l'éclair de la Genèse. Au fur et à mesure du chemin parcouru, les rideaux de pierre écartent le paysage. Les parcelles d'oliviers prennent de l'ampleur. Quelques plants de courgettes, d'haricots, de tomates se cachent dans la frondaison. L'aboiement des chiens au loin annonce le village. La route commence à prendre la courbe de l'ancien delta. Un chemin de terre amène à une vieille fontaine rehaussée d'un fronton. L'enduit orangé et les bords fanés de rouge s'écaillent. 1929, une date postérieure à l'existence même de la source. Il eut la procession le jour de l'inauguration, l'alcalde, ombrageux au devant, la veste croisée, luisante aux encolures, les taches d'œillets beige sur les chaussures noires. Le discours est froissé dans la poche. Il faudra donner du ton à l'importance et concéder par la suite au goupillon d'eau bénite. Tous les habitants se pressent, certains endimanchés. C'est comme une remise de prix. Les garçons, ajoncs en main, font courir les chiens. Ils tisonnent la terre et soulèvent quelques pierres. Les pères froncent les sourcils, prêts à la parole tranchante, définitive. Un peu plus tard, à la fraîcheur de la nuit venue à l'abri de la place, il y aura du vin et des roscos offerts. Il y aura de l'envie, des rires et du bonheur. Les propos de la nuit des temps échangés sous les sols pleureurs. Les premiers baisers, les premiers sermons, les premières rancunes, la trahison annoncée. La margelle fendue résonne encore de l'appui des cruches, de l'effleurement des mains. L'odeur des mulets fourbus flotte dans l'air. Il y a si peu d'années que le silence a fait suite au dessèchement, ou plutôt à la modification du cours de l'eau, maintenant canalisée, dirigée au plus près du village. Le progrès ensommeille la fontaine. Qui se souvient encore des nouvelles échangées ici, de la lourdeur des pas, le dos voûté, la hanche basculant peu à peu sous la pression des cruches d'eau. Malgré la facilité du geste de ce robinet, au verre plus qu'il n'est nécessaire, le regret de l'eau puisée, prétexte à de nombreuses échappées, perdure. Les anciennes en promenade détournent le regard au passage de la fontaine. Elle est une vieille connaissance délaissée, chaque fois plus ébranlée de silence et d'oubli. Elle est maintenant peuplée de rares grenouilles, de lézards. Au plus chaud de la journée, les serpents en épousent les coins. Ils laissent des traces larges de 2 pouces dans le dépôt d'argile. Coups de pinceau furtifs, cylindres écaillés, écriture abstraite du monde reptilien. Sur la gauche, un sentier, maintenant élargi, mène à une première couève. C'est celle aux petites fenêtres colorées, parjure des traditions. 3 petites ouvertures de jaune, de vert, de rouge. une treille de plastique bleu, cisaille les quelques figuiers, abri sommaire pour un semblant de terrasse, encoche blanche de la cueva sur l'ocre de la falaise. Les chiens, guetteurs, donnent le ton, grognement, aboiement, vigile de chaque véhicule, de chaque étrangeté. Ils sont en attente de leur bonheur canin, ce moment où les chèvres sauvages, ennemis jurés et préférés, descendront de la montagne. Elles les narguent chaque soir, à la tombée du jour, recherchant la fraîcheur, mangeant les quelques maïs coupés ras, les quelques rares aubergines, pimientos, le potager comme une esquisse. La survivance de l'espèce se forge aussi avec le côtoiement des humains et de leurs éclaireurs à quatre pattes et quelques épluchures volées. Je contourne la vieille fontaine, abandonne le chemin de terre. Je reviens sur la route. Los Algarves. Les ravines, derrière le village, ressemblent à des châteaux de sable aux coulées de pâte entre les doigts d'un ogre ou d'un géant, ou les deux, pour l'effroi de la démesure. Immobile falaise. Fortons durcis, tranches d'épices fossilisées où se cogne le vent, sa plainte sourde, son gémissement, le dos du ciel au mur de l'histoire. D'ici rectangulaires, alignées, les anciennes ouvertures se découpent avec netteté. Plus de son, de poussière blanchâtre, juste la pierre taillée, creusée, épuisée de son temps. Los Algarves, les greniers à blé millénaires. Plus de cordes, plus de petites entailles pour escalader les rebords disparaissent peu à peu, effaçant la sente verticale. Le danger est présent et rare, sont ceux qui la peur au ventre, mais avec l'impérieuse nécessité, quasi irrépressible, gravissent la paroi. Ils s'y engouffrent, tels des chasseurs funambules, avec un écho le même exploit des anciens. S'offre alors un dédale de citernes, de couloirs étroits et bas, presque même incongrus, au vu de la hauteur, un puits, sa descente sans fin au boyau de la terre. Palais oublié, entrailles cachées, le trésor de semences, les récoltes de blé, la garantie de vivre au ventre du Tajo. Les amis, redescendus, racontent l'exploit. L'émotion est tangible, fanfaronnade, réciproque, sur la vérité, la peur dite. Los abuelos, assis sous l'abribus, grommellent les mêmes connivences. Los Algarves. D'ici-bas, les cavités, trouées noires, fascinante, aimante toujours le regard. Elle grise l'inquiétude, le mystère et l'attente. Elle balaye les siècles d'un revers de pierre saisissante. On imagine avec peine qu'il y ait pu avoir autant de richesses jalousement gardées. Bien avant même Los Moros, plusieurs communautés de femmes, d'enfants, d'hommes vivaient là. La végétation y était dense, le gore ondoyant, goulu de sédiments et de poissons, la chasse pourvoyeuse. Les hommes avaient choisi le site pour la découpe du méandre, les plateaux, leurs promesses de culture. Chaque intelligence gagnée sur le silex, sur les haches polies, était une victoire. La clameur de la vie puissante à chaque enfantement. Et puis cet horizon, cet infini d'ocre, de gris, de mauve. La portée des yeux au plus lointain, presque à la palpitation du ciel, un hommage journalier à l'astre blanc. Peu à peu, l'animal s'est fait rare, la chasse trop éloignée des abris, les rixes violentes, les fêtes sacrificielles. Bientôt, plus de refuge. La peur volait le jour. Les saisons de fournaise, tout comme de froid intense, les rafales, la neige imprévisible, son linceul au matin, la mort, souvent pressante, décidée du nombre et de leur survie. Le gore devenait l'ennemi. L'eau emportait tout sur son passage, arbres, huttes, la cueillette, les outils, les liens de sang et de cuir, les aiguilles d'eau, les hameçons, les enfants en bas âge, tout. Dureté de la vie, âpreté du monde, le glaive millénaire a tranché dans le tuf. Le silence maintenant envahit la falaise. La dette des dolmens égrène le présent touristique, les dolmens. Ils rendent compte à tout jamais de cette part de l'histoire. La course chancelante de l'homme sur l'avenir, le balbutiement des rituels, le feu sacré. La respiration est sourde dans les cavités sombres, les blocs opposés essoufflent les visiteurs naïveté de l'homme. Le braille des apiques écorche les pommes des jeunes chercheurs. Il entaille la peau de récits de braise et de charbon, de fragments de perles, de pigments, d'ossements, tatouages, offrandes abruptes de caresses, langage primitif. C'est la peur ciselée d'un marquage ancestral. Le pollen des mémoires se disperse, recouvre la vega, glisse sur la chaux, à l'ombre du clocher, fugace. Il se faufile dans l'entrelac des cuevas, soulève un drap, balbutie sur un livre, se soumet à l'enclos de la cheminée, sous l'âtre. Invisible l'azur. Chacun au plus intime de son souffle, dans la banalité du geste, le plissement des lèvres, la succion du nourrisson porte aux autres la présence de ses aïeux. Le damier des grottes, face tournée à l'intérieur des âmes, a le poli des bassins de Ranada, le foisonnement des colonnes de Córdoba, l'ogive d'une cathédrale, la reconquête, le sourire lent d'une madone, immensité brumeuse, la tentation de fuir pour celui qui ne sait plus entendre, voir, soupçonner. Tout cela encore. Le large vallonnement, les pinceaux de blé dur, les vagues argentées d'olivier, les poignées d'eucalyptus, le flanc blanc écaillé du cortiro. Tout cela m'offre la perspective du vent chaud au soir, toujours à ce même paysage, une éternelle reconnaissance, Gorafé. Vous avez vu quel est le ton de cette voix fantastique, hein, d'Elisabeth Aragon. Comment elle dit son amour pour ce village goraphé, pour ce village d'Andalousie. Comment elle amène ça? Et elle voue à ce village une éternelle reconnaissance. Voilà, toujours à ce même paysage, une éternelle reconnaissance goraphée. Voilà. Alors c'est une poésie au ton narratif, au ton épique. Je lisais en l'horizon andalou d'Elisabeth Aragon en me disant que moi qui aime ce que j'appelle les poèmes radiophoniques, des poèmes assez longs, un peu narratifs, qui n'enlèvent rien d'ailleurs à la dramaturgie poétique du texte, loin de là. Je me disais que vraiment, ces poèmes-là, ils étaient faits pour la radio. C'était véritablement ce que moi j'appelle les poèmes radiophoniques. Et tout à l'heure, elle parlait d'une fontaine. Vous savez que Federico García Lorca a été fusillé dans un lieu près d'une fontaine, dans un gouffre. Alors, Elisabeth Aragon a écrit un très beau texte qui est indépendant de ce livre Horizon andalou, mais que je vais vous lire. La poésie est dans le fossé. Il y a en premier ce gouffre étroit de la route, la Venta del Molinello, encerclé de pins et de dents de pierre. Il faut s'habituer, une fois encore, à cette étendue neigeuse du blé coupé, juste tacheté d'olivier et d'amandier. Bien auparavant, oubliez le nom d'un village, Viznar. S'obliger à ne pas penser aux coups de feu, s'obliger à lutter contre la révolte, la bêtise humaine politique. Ils l'ont amené là, à quelques pas du pueblo, dans le chemin resserré par le calcaire. La fuite soudaine d'une effraie, l'air chargé d'arômes. Celui du foin battu près de la place, auréole verdue de poussière à la trace desséchée du sabot des mules. Celui du lait d'amande fermenté dans la cruche, celui plus doux, amer, du jambon sec, et la lampée du gras fondant, l'âpreté de l'olive brune, plissée, une grappe de raisin fendue par le miel. Toute la suavité des goûts confondus, tout cela, dans l'instant même, dans cette acuité exacte d'une mort rapprochée, émousse ses sens. Tout ce qui, dans ces derniers moments, n'aura pas de prise sur ce qui va s'achever. Il pense à la robe du vin, velours enivrant, le sucré du melon, le galbe d'un pied. Il pense à sa course d'enfant entre les roseaux, le sexe battant du jeune berger luisant, l'entrejambe de son premier désir, l'acceptation première sans vergogne de ce qui allait en partie. Il ne sait plus cela, le condamné. Il resserre le col de sa chemise beige froissée, salie, comme le papier moucheté des écritures sous la petite lampe verte de son bureau. Il a peur par avance du moment aigu de l'explosion du cœur. Il a peur de la souffrance, qu'elle puisse durer dans le réquinement abject d'une cruauté, celle des quatre hommes qui l'entraînent. Le vent a rabattu d'un coup sec son veston comme la dernière faena de son ami Ignacio Sanchez Mejías. Les feuilles des amandiers crissent. Tout autour de lui conspire, entre le chuchotement des feuilles, le silence intérieur des troncs, des chênes-lièges occuperaient du temps choisi pour son exécution. Il le sait, à l'irréalité du filet d'un nuage faiblement éclairé par la lune d'algues de coton. Il le sait, par la transparence du cristal qui éblouit encore sa poitrine. Il a toujours eu cette connaissance terrible de ce qui allait être sa fin, impartageable, indicible. Rencontré plus d'une fois dans les yeux d'un amant, les lèvres carnassières, cannibales du désir. Dans ce regard détourné, celui de l'ultime estocade aux arènes de Manzanares. Maintenant, il contourne la fontaine, arrive au repli de la petite carrière alourdie de pénombre. La masse de l'olivier près du sol forme sa dernière couverture. Il sent la tension des hommes, il en connaît deux, la traîtrise d'un autre. Par lui, il va mourir, même s'il n'est pas là. Présent dans cette nuit qui tarde à appeler le jour. L'autre, celui des certitudes abjectes, celui du non-désir. Il aura toujours ses initiales à lui, comme une blessure infectée, les barreaux de son lit empalant à tout jamais les saisons à venir. Il sera le supplicié vivant du crime qu'il fait commettre. Il le plaque face contre la pierre, dernière empreinte, éraflure, la première goutte de sang sur les lèvres, il en trouve la bouche, en savoure le goût unique, son identité. Elle lui fait tout aussitôt penser à la fulgurance d'une jouissance, aux différences odorantes de son sperme, il en serait presque à rire, à hurler face à l'incongruité du moment, dans la déchirure intérieure de son existence, dans l'ultime rappel du plaisir. Il n'est plus question de quelques secondes, certainement, et pourtant, ce sentiment d'infini, accompagné d'incomplétude, il s'oblige à réciter les prénoms aimés de lui seul, il en espère la clémence du non-oubli. Ses omoplates joignent le centre de son dos, elles aiguisent son souffle. Ses poignets brûlent, serrés par la corde. Il commence à saisir la terreur dans les yeux de l'animal. Il se sait lui-même l'animal. Dans l'inacceptation de ce qui va suivre, dans un ultime sursaut, il lutte contre lui-même, il essaie de s'étouffer de poussière. Le froid de l'aube du mois d'août, étonnamment, le transperce. Il ne sait plus si cela est du temps de cette fin de nuit ou du détachement soudain de son cœur. Il lutte contre son propre corps, anguille sanglante, démesurée, qui le trahit une dernière fois. Il est à l'inutile du désespoir. L'éclair des mille doutes a déchiré le monde, lui qui n'avait jamais pu se départir au fond du rêve, de l'assurance, de l'outrancière intelligence irrévérencieuse. Lui qui jonglait dans la lumière, dans la musique, dans les mots. Il faut du temps pour continuer la route, laisser filer les phares des camions. La poésie tapit dans le fossé. Elle a la chair fendue de la mer de l'aube. C'était donc ce long poème, le poème épique sur la mort de Federico Garcia Lorca dans ce fossé de Wisnard, près d'une fontaine, effectivement. Il y a un très, très beau livre sur la mort de Lorca qui explique bien, je pense, le livre peut-être le plus sérieux qui était écrit sur lui, c'est de Gibson. Nous allons continuer la lecture de Horizon Andalou, mais avant je vais vous dire, en écoutant cette voix d'Elisabeth Aragon, là, par ce texte splendide hein, sur la mort de Lorca, Dieu sait si c'est difficile à décrire, sur les derniers instants de Lorca qui va être fusillé, je pense à Camus qui disait « L'artiste plaide vraiment pour l'amour du prochain ». Non pour cet amour du lointain qui dégrade l'humanisme contemporain en catéchisme de tribunal. Voilà. Je me disais que cette phrase, mon Dieu, elle est absolument intemporelle, universelle, et elle définit aussi bien notre époque. L'artiste, il doit plaider pour l'amour du prochain. Voilà. Voilà. Et non pas cette espèce d'humanisme lénifiant que l'on veut nous faire croire que qui va régler le sort du monde, ce n'est, comme dit Camus, il y a longtemps, hein, Camus, mort en 1960, vous rendez compte, Camus disait ça, en catéchisme du tribunal, et nous vivons actuellement que de ce catéchisme de tribunal. Il faudrait que les artistes fassent comme Elisabeth Aragon un peu, hein, qui plaide vraiment pour l'amour du prochain. Et nos humanités sont bavardes. Humanité bavarde d'Elisabeth Aragon dans Horizon Andalou. Cuatro melones por un euro, como lo cuatro melones por un euro, melón caramelo. Seule la camionnette grise arpente gorafée. Sieste caniculaire, ruelle en toile d'araignée. L'écho du haut-parleur agace le sommeil, les chiens aboient comme toujours, si peu de visites. Y aura-t-il un rideau tiré, une porte rapidement ouverte et cette chaleur soudaine qui envahit la fraîcheur de la cueva? Y aura-t-il la bonne affaire? La gourmandise jaune cirée du melon oblongue. Demain, c'est mercredi, jour de marché. Attendons le bavardage de Rossio. Des négociations avec le vendeur noir des abusés. Une blouse, deux blouses colorées. Les fruits séchés sont toujours chers, pas nécessaires. Juste alors les quelques poivrons manquants pour les migasses. Quelques tomates aussi. L'occasion de parler des jardins de moins en moins entretenus au bas de la route, la fatigue aux jambes, les mains qui nous trahissent. La nièce fidèle, venue de France, nous amènera à la ville. La terrasse du café en face de Mercadona, après les grosses courses, son chocolat délicieux. Anna n'est pas encore sortie de la maison. Il faudra y passer, la rassurer de tant d'oubli. La vie sourde du veuvage s'acclimate trop au volet à peine entrouvert. Il lui faudra encore beaucoup de temps pour quitter le noir de la douleur et des habits. Quelques coups à la porte, elle amène le pain frais, un reste de riz safrané, la morcilla encore fumante. Jour de marché. Se tenir au vivant. Tant mieux pour les ragots, les amusements du cœur. La petite pluie fine saupoudre la lumière. L'orage au loin tournoie, sa face au soleil, provocateur, tonitruant. C'est un vrai enfant d'averse abrupte. Le mencal s'embrume, disparaît. Vite, rentrez le linge et les enfants râleurs, on n'est jamais trop prudent. Les vélos gisent. Le ballon, retenu dans un seau,
La merienda, cette fois-ci, est devant la télé. Les rires refusent. Les petites mains poisseuses fleurissent la nappe brodée, aucune gronderie. La tendresse, reconnaissante de leur joyeuse présence, suffit. La fin d'après-midi, juste mouillée, s'agite pour peu de temps. Juste pour souligner le manque d'eau. Juste pour se dire encore une fois que la vraie pluie est sur Baza ou Guadix. Il faudra relaver le drap blanc oublié et essuyer le banc de pierre. Melon, caramelo. La chanson du vendeur ambulant s'éloigne, peut-être pour Villanueva de las Torres. Il sillonne El Colorado, tourne la tête au passage, au loin la cueva, jaunie, abandonnée du grand-père. La nostalgie des champs arides, des mules, du pain huilé, l'étreint. Il le sait, il n'a pas pu s'empêcher de venir une fois encore, juste comme ça, pour la beauté du paysage. Cette route, il la connaît par cœur. Elle le rassemble dans ses souvenirs. Il ira, demain peut-être, à Gore, plutôt à Hermann Valley. En fait, rien n'est moins sûr. Peu de profit, une fois de plus. Rien finalement ne lui importe, vivre de peu, comme le grand-père. Juste les enfants rechignent, sans dette. Il ne pourra pas les aider. Ils ne se comprennent pas. Les demi-mots de l'habitude suffisent au quotidien. Rien ne change vraiment. Tout ce travail, si peu d'argent, chasser l'amertume, la fraîcheur des plantations de peupliers s'invite. Un virage, le petit pont, faible cours d'eau, bientôt, les premières maisons du village. Reprendre la chanson de la vente. Humanité bavarde. Les petits liens de l'habitude. Café con leche, pan con tomate. Quelques prétextes ressassés. La faible récolte des amandes de l'an dernier. Le prix baissé. La parcelle d'olivier près du Cortijo. Donnée au fils, celui qui revient des Baléares. Il sera là. Au début de l'hiver, pour la cueillette, les négociations au pressoir, les bouteilles d'or liquide prudemment remusées dans la pièce du fond. L'oncle parti n'a rien cédé. Une cueva s'est effondrée. Vite prévenir Manuel. Celle des voisins est à vendre. La cuisine est refaite, la salle de bain, verrue de briques, juste chaulée. Certainement trop cher. L'attente des enfants pour les vacances est si longue. L'enclos de la parole adoucit les rhumatismes, la solitude et cette peur secrète du grand départ. La veillée, parfois, joie des mandolines, des biscuits trempés dans le vin pétillant. La voie lactée est démesurée. Le sien de lui, au Liano, sur la terrasse del Torriblanco, est encore plus puissant. Les essaims d'étoiles filantes éclaircissent le ciel, une traînée de diamants bruts. L'horizon d'ébène s'ouvre sur le monde chargé de vœux. Monté là-haut par la route empierrée, des entrelacs frôlent le vide. Ce soir, Maria a préparé las gachas. Les tomates coupées en deux ont séché au soleil. Les fauteuils à bascule attendent sous la treille. Ce soir, il y aura du vin à l'envi. le chorizo grillé, des anchois marinés, la tache d'huile sur le torchon, la musique, les chants, la grande tablée de l'amitié.
Elisabeth Aragon, toujours cet horizon andalou, là on retrouve la vie quotidienne dans ces villages, hein, villages troglodytes, avec tous les plats andalous, las gachas, las migas, bon. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle laisse les mots en espagnol, les Toulousains connaissent tous l'espagnol, c'est pas la peine de traduire. Guerrilleros. Des souvenirs, des corps s'effacent inéluctablement. Il n'en reste qu'une mémoire olfactive, un saisissement d'âme, une légère pression de l'index sur une cicatrice ancienne, là où la peau est plus fine, plus blanche, légèrement creusée. Ce soudain rappel des sens, il y a une déchirure infinitésimale du canevas. Un presque rien dans l'immensité du tout. Les contours du visage font un halo de suie. Les yeux exorbités des fosses communes déchirent le silence. Identité entremêlée, chaux vive de linceul. L'anonymat d'une ombre, ce déshonneur de guerre. La besace des hontes s'exhume sur leur râle. Mais ce prénom, la harcelant au fait des poumons de la mère, il est à la renverse de l'addiction, sur la liste secrète, détournée. Il est l'enfant à jamais caché du vivant de la mort. Mais cela encore, cette odeur de thym fané, de réglisse, étrangement sucrée. L'effluve tourbillonne, choufle saut et sec de fin d'après-midi sur la vega. Elle transporte la poussière du blé, du capre, des copeaux de charbon. Elle assèche la langue, s'infiltre aux mains épineuses du figuier de Barbarie. Elle envahit chaque blessure de terre et de chaux. La césure du ciel dévale sur les murs. Comment alors? Comment alors se saisir de cela? Ce sentiment subtil, l'expérience d'un halo parallèle, l'instant du retournement. Soumettre au lendemain la soif de vivre. Au toujours de la vie, comment dire, ce qui est à venir, ce qui sera à nouveau l'unique et absolu. Cette précipitation du monde au seuil du quotidien. On évoque peu cette fracture du temps journalier, ce pudique rappel d'un frère d'armes. On est dans le silence, détaché de toute vérité, juste dans l'en-dedans du cœur. Il s'aligne sur l'immobilité, sur l'horizon, par-delà le mental. Le cœur est tombé en lui-même, captif, étoilé de poussière. Petit dépôt carmin sur la cage thoracique, la même conspiration de l'ange ou de son semblable. Il n'y a rien à rajouter à cela. C'est dans l'ordre de l'évidence, imparable. Cela dure peu dans le calendrier de l'intime. Une mort offerte aux amandiers, une croix incendiaire, la sèche peau des moissons, éternelle fenaison, les courbes espérées du regain, les lignes du ciel et des pensées se confondent, s'épousent, s'unifient. Réunion majeure de l'iris et de la cornée, épluchure de nuages. Il faut aller dans le désencombrement de soi, au souterrain du deuil, étirer l'étoffe, la lisser de la main, s'étourdir de coton blanc humide et chaud, sensualité de l'orage. Il n'y a aucun repos dans le geste, un hoquet de main tendue, de fil de crin qui tâche. Allez seulement à la mesure, jusqu'au rejet de l'impossible oubli, jusqu'à l'effilochement, la transparence, jusqu'à la fatigue extrême. Détournement du temps, l'histoire. L'histoire, l'épuisée. Celle à l'encontre de soi, du si proche au plus éloigné, celle des lambeaux de mémoire. Griéros, familier, inconnu, presque déjà poussière, dans le froissé du fouen. Il n'y a aucune complaisance à aliter le bonheur. Fragment de souvenirs sépia, empreinte lancinante du passé. L'enracinement des années colmate la brèche. Il scalpe l'utopie, dérobe le rêve. Répétition idiote des vacillements de l'homme. La buanderie de l'âme a laissé la porte entrouverte. Les pots de confiture sont alignés sur les étagères, les grappes de chorizo, suinte, farandole des piments. La cheminée brûle les premiers fagots d'asparto, juste pour l'odeur de son crépitement, enfance de brindille. Les anciens idéaux ont retroussé les manches de chemise juste pour quelques instants. Le peu de gloire. Une poignée de son refermée dans la main, fine poussière. L'itinéraire des souvenirs se perd souvent au bas du calendrier, alignement des nouveaux réverbères, torpeur d'été. La route d'Alicoun, si proche, gobe les lacis du calcaire